Les gens ont du mal à me croire quand je leur dis que je suis guatémaltèque. Moi-même, j'ai des doutes. Ils voudraient que je sois plus brun et plus trapu, que je leur ressemble davantage et que je parle un espagnol plus tropical. Le fait est que je ne rate pas une occasion de me distancier de mon pays, au sens littéral comme au sens littéraire. J'ai grandi à l'étranger. Je fais de longs séjours à l'étranger. C'est depuis l'étranger que j'écris et décris ce pays, à la manière d'un migrant perpétuel. Je souffle de la fumée sur mes origines guatémaltèques jusqu'à les rendre plus opaques et plus troubles. Je n'éprouve aucune nostalgie, aucune loyauté ou patriotisme, bien que, si j'en crois mon grand-père polonais, la première chanson que j'ai appris à chanter à l'âge de 2 ans était l'hymne national. Je ne sais pas à quel moment l'anglais remplaça l'espagnol. Je ne sais pas s'il l'a vraiment remplacé ou si j'ai adopté l'anglais comme une sorte d'habit qui me permettrait d'entrer dans mon nouveau monde et de m'y mouvoir librement. J'avais 10 ans à peine, mais je comprenais déjà, peut-être, qu'une langue est aussi un scaphandre.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans la famille littéraire que nous nous construisons au fil du temps, qui habite les rayons de nos bibliothèques et que nous emportons précieusement avec nous à chaque fois que la vie nous pousse à faire nos valises, il y a des écrivains qui sont, plus que d'autres, devenus nos frères, nos sœurs. Ce sont ceux qui, en une phrase ou en une page, ont su faire vibrer quelque chose en nous d'infiniment personnel, de si intime que nous ne lui avons même pas donné de nom. Quelque chose qui ressemble en même temps à la solitude et à la fraternité, à la mélancolie et à la joie, à l'exil et à l'appartenance. Et ces livres-là sont devenus nos seuls livres de prière. Eduardo Alphone est l'une de ces rencontres de lecture que l'on a envie d'offrir en cadeau à ceux qui comptent vraiment pour nous. Né au Guatemala, émigré au Nebraska, actuellement en résidence en France, il a manqué devenir ingénieur. Quelle chance pour nous que l'écriture l'ait appelé, comme s'il avait bu l'une de ces mixtures enchantées que préparent les sobadoras, les guérisseuses un peu sorcières de son pays natal. Ces récits hantés, pleins d'humour triste et d'étrangeté légère, nous entraînent dans une histoire sans fin, au volant d'une vieille voiture couleur saphir, racontée en 1000 éclats, tendre ou féroce, dont nous souhaiterions ne jamais sortir. Ces livres, traduits par David Faucambert, sont tous édités à la Table Ronde. Bonsoir Eduardo Alphone.
Bonsoir Kathleen, c'est un honneur d'être ici avec vous.
C'est un plaisir de vous recevoir. En lisant votre dernier livre, tout petit, Alphone Boy, vous racontez que vous étiez, dans l'attente de la naissance de cet enfant, en train de traduire un poète américain qui s'appelle William Carlos Williams. Lui-même était une sorte d'étrangeté dans son pays, l'Amérique. Sa mère était portoricaine, il était médecin en plus d'être poète. Il exerçait, disait-il, son métier de poète en médecin et son métier de médecin en poète. J'allais vous demander, est-ce qu'au fond, cette fraternité que vous avez ressentie en attendant votre fils, est-ce que c'est aussi la fraternité entre deux desubicados, deux out of place, deux personnes jamais à leur place?
Oui, peut-être. Oui, je vais changer à l'espagnol, parce que c'est plus facile pour moi. Yo creo que tal vez sí.
Bien, je crois que tal peut-être si. Vous avez raison.
Lo que primero me atrajo a Williams,
a William Carlos Williams. Ce qui m'a attiré, Williams, c'était ses petits contes, plus que sa poésie. Ses nouvelles, surtout. Parce que quand j'entre en littérature, très tard, parce que je découvre les livres, j'avais presque 30 ans. Et je deviens lecteur à 30 ans. Avant, je ne lisais absolument pas. J'étais ingénieur et je vivais très loin des livres. Ça a été un accident, vraiment. Et c'est pour ça que tu as tout à fait employé un mot, le desubicado, où je me sentais toujours à côté de la plaque. Et je crois que Williams se sentait exactement pareil. C'est-à-dire qu'il vivait dans deux mondes complètement différents, en même temps, le monde scientifique, le monde artistique. Je ne l'avais pas réfléchi jusqu'ici, mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui nous rassemble.
En effet, fait, Eduardo Alfon, vous êtes né au Guatemala, je le disais. Vous avez émigré à l'âge de 10 ans à Miami, en Floride. Maintenant, vous vivez au Nebraska. Mais surtout, vous dites que vous êtes trois quarts d'Europe de l'Est, polonais. Non, trois quarts de pays arabes et un quart de pays polonais. Au fond, est-ce que vous appartenez à autre chose qu'à votre mémoire, à vos histoires, à votre écriture? Est-ce que vous avez un sentiment d'appartenance?
Non. Non. Ninguno.
Non, absolument aucun.
Il y a des personnes qui me demandent si finalement j'ai rencontré cette sensation.
On me demande
de
si j'ai enfin trouvé ce sentiment d'appartenance dans la littérature. Mais non, même en littérature, je ne l'ai pas trouvé. Je suis né, j'étais déjà étranger.
Et je
l'explique ainsi. Moi, les 10 premières années, j'ai grandi dans un pays profondément catholique, dans une famille juive, dans un pays où pratiquement il n'y avait pas de juifs. Donc tous mes amis, tous mes compagnons étaient catholiques. Tous mes amis faisaient leur première communion, tous célébraient Noël, et nous, non.
Et
je me souviens très bien d'avoir grandi avec le sentiment de n'appartenir à rien. Bien entendu, je pouvais rester au Guatemala, mais pas participer. J'avais le droit d'observer. Par exemple, je pouvais, j'avais l'impression d'observer un match auquel je ne pouvais pas jouer. Et donc, tu grandis avec la sensation que tu n'es pas de là, que tu ne fais pas partie des choses. Et je pense que c'est un sentiment, en fait, très juif. Et depuis aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai l'impression que j'ai aucun sentiment d'appartenance, ni au Guatemala, ni aux États-Unis, ni même maintenant ici en France.
Alors peut-être que ce sentiment d'appartenance, il va arriver aujourd'hui avec la naissance de votre fils Léo. On va écouter une première lecture tirée justement de ce dernier petit livre paru à la table ronde, Alfon Boy.
Je suis devenu ton père, Léo, comme tout ce qui m'est arrivé d'important dans la vie, par accident. Tu grandis encore dans ce ventre alors que je traduis William Carlos Williams, mais j'éprouve le besoin de te dire certaines choses dont j'ai peur qu'ensuite, le temps et le silence aidant, elles sombrent dans l'oubli. Te dire, par exemple, que toutes les nuits je dors la main droite posée sur toi, dans l'espoir peut-être de sentir tes imperceptibles mouvements, ou pour te protéger pendant la nuit, ou bien en me disant que toi, qui dors et grandis là-dedans, tu sens ma main tout près de toi, de l'autre côté de ce monde interne et obscur qui est le tien. Te dire que je prie pour que tu n'hérites pas de mes rhinites allergiques, ni de ma calvitie précoce, ni de mes névroses, ni de ma propension à être malade en voiture, en bateau et en avion, à m'évanouir à la première goutte de sang vue ou imaginée. Mais te dire en même temps que si tu en hérites, si tu te trouves être aussi allergique, déséquilibré, chauve et névrosé que ton père, eh bien ça ne fait rien. La vie continuera. Il suffit de se moucher. Te dire qu'au petit matin, une profonde sensation d'angoisse, ou plutôt de peur, m'envahit. La peur d'échouer en tant que père. Saurais-je être père, Léo? Saurais-je être ton père? Te dire aussi que je n'avais jamais eu envie d'avoir un enfant. C'est du moins ce que je racontais à tout le monde, et à moi-même, sûrement pour atténuer cette peur que j'éprouvais, que j'éprouve toujours. Je ne m'attendais plus à devenir père. Je suis devenu ton père par accident, Léo. Encore maintenant, alors que tu es en train de grandir dans ce ventre, j'ai du mal à m'imaginer comme père, à t'imaginer dans mes bras, le regard levé vers le ciel, portant tout l'avenir dans tes yeux. Peut-être parce que être père est une chose inimaginable.
Eduardo Alfon, je me demandais en lisant ce petit livre, Alfon Boy, si au fond il ne marquait pas un passage dans votre écriture, dans votre œuvre. Vos livres précédents, tous les quatre qui sont publiés en français à la table ronde, ils sont au fond écrits au passé, un petit peu au présent, mais beaucoup au passé. Et celui-ci, il semble écrit au futur. Est-ce que c'est quelque chose qui va modifier votre rapport à vos histoires?
Je ne crois pas. Non, je crois que non.
Non, je ne pense vraiment pas.
Ha cambiado yo.
Je pense que c'est moi qui ai changé.
La manera que me relaciono con el mundo.
Mi relación avec le monde, par exemple.
La manera que me relaciono con mi padre.
Et mes relations avec mon père.
Ahora que soy padre.
Maintenant que je suis père, la relación avec mon père a changé.
El tiempo ha cambiado. Ahora
et le temps aussi a changé.
No?
Maintenant je vois le temps qui passe parce qu'il est face à moi avec cet enfant qui grandit. Ça a changé. Mais ma relation à la littérature, au moins pour l'instant, absolument pas. Je suis en train de mettre un point final au prochain livre.
Et
je suis toujours dans ces histoires de mes grands-parents, de mon passé, et tout spécialement avec l'histoire du Guatemala dans les années 70, avec cette guerre interne. Et je pense que de ce point de vue-là, je n'ai pas changé. Ce qui a changé, c'est ma routine. Bien entendu, maintenant, j'ai moins de temps, parce que je suis plus père qu'écrivain pour l'instant. Mais je continue à écrire exactement de la même façon, pour maintenant.
Alors, ce qui est bien, c'est que ce fils, donc Alphonse Boy, ne s'appellera pas Salomon, le nom de celui que vous cherchez dans les lacs du Guatemala, mais il s'appellera Léo, un peu comme Léon, votre grand-père. On va écouter une deuxième lecture. Elle est tirée du boxeur polonais.
69 752, son numéro de téléphone. Tatoué sur son avant-bras gauche, pour ne pas l'oublier. C'est ce que me disait mon grand-père et ce que j'ai cru tout le temps de mon enfance. Chez nous, dans les années 70, les numéros de téléphone étaient à 5 chiffres. Je l'appelais Oidze, parce que lui m'appelait Oidze, un mot affectueux en yiddish. J'aimais son accent polonais. J'aimais tremper mon petit doigt, le seul trait physique que j'ai hérité de lui, deux petits doigts chaque jour plus recourbés, dans son verre de whisky. J'aimais lui demander de me faire des dessins, bien qu'en réalité il ne sache en faire qu'un seul, vertigineuse esquisse toujours identique d'un chapeau ondulé et cabossé. J'aimais la couleur betterave de la sauce au réfort, krain en yiddish, qu'il versait sur sa boulette de poisson blanche, gefilte fish en yiddish. J'aimais l'accompagner lors de sa promenade dans le quartier, ce quartier où une nuit, au milieu d'un immense terrain vague, s'était écrasé un avion rempli de vaches. Mais surtout, j'aimais ce numéro, son numéro. J'étais hypnotisé par ces 5 chiffres verts et mystérieux qui, bien plus que sur son avant-bras, me paraissaient tatoués sur quelque partie de son âme. Verts et mystérieux jusqu'à récemment. C'était le milieu de l'après-midi, je sirotais un whisky avec mon grand-père, assis tous deux sur son vieux canapé en cuir beurre frais. Ça s'est passé à Auschwitz. J'eus un doute, je n'étais pas sûr d'avoir entendu. Je levai les yeux. Il cachait le numéro de sa main droite. Une pluie fine ronronnait sur les tuiles. « Serre-moi encore une goutte, hein, Oidze, » me dit-il en tendant son verre.
Eduardo Alphone, ce grand-père qui est le héros du livre Le boxeur polonais, on le retrouve dans tous vos livres. Et c'est aussi, pour le lecteur, le cœur même du départ de l'écriture. Le fait que cet homme ait une histoire non racontée quand vous êtes enfant et que vous mettez du temps avant de connaître l'histoire, et encore, la connaissez-vous tout entière. Et c'est, au fond, dans votre famille, il y a comme ça énormément d'histoires dont vous ne connaissez que des bribes et qui ne sont pas toujours racontées de la bonne façon. Et c'est de là qu'est née l'écriture.
Si. Por alguna razón me atraen estas historias.
Pour une raison que je ne connais pas, je suis très attirée par ces histoires interdites, par ces silences, comme par exemple dans le cas de mon grand-père polonais, dans le cas du petit Salomon, qui est le personnage principal de Deuil. Et c'était aussi une histoire interdite, secrète. Dans le cas de mon grand-père, eh bien, c'était une histoire que mon grand-père lui-même ne voulait pas parler. Il avait passé six années en camp de concentration, c'est-à-dire qu'il a été prisonnier pendant toute la guerre. Et c'est grâce à ce boxeur qu'il s'est sauvé miraculeusement. Lorsqu'il arrive au Guatemala, il ne veut pas en parler, jamais. Et pendant 60 ans, il ne nous a jamais parlé de cette expérience. Quand on lui demandait exactement à quoi ça correspondait, ses numéros sur son bras, il nous disait « c'est mon numéro de téléphone ». Et pour une raison que je m'expliqua, 60 ans après, il a accepté de s'ouvrir, de me parler, et il m'a raconté beaucoup de choses. Il m'a raconté tout ce qui s'était passé pendant ces 6 années, des choses absolument terribles. Mais quand il m'a raconté cette anecdote du boxeur, je savais que c'était là le point d'orgue de son expérience. Cette petite histoire qui, pour lui, n'était qu'une anecdote, une minute, cette rencontre dans une geôle d'Auschwitz avec un boxeur, il ne lui donnait pas plus d'importance que ça. Et moi, à ce moment précis, j'ai su que ça, c'était l'histoire de mon grand-père, que c'était mon héritage. Bien sûr, j'ai mis énormément de temps pour pouvoir l'écrire. Peut-être 7 ou 8 ans pour trouver exactement la bonne manière de l'écrire. Mais après, ce récit est devenu le centre de mes livres. C'est pour ainsi dire, le point de départ de tous les autres livres. Parce que 2008, le boxeur polonais, après Monastère en 2010, et puis Pirouette, Monsieur Hoffman, Deuil, en 2018, si je ne me trompe. Et je suis en train de travailler sur le prochain. Donc pour moi, cette anecdote très courte et très intime est devenue une énorme histoire. Et on, le départ de cette recherche sur le silence, le secret, ces histoires interdites et le deuil.
Vous dites, Eduardo Alphon, que vous travaillez sur le prochain livre, mais au fond, c'est toujours le livre. Vous travaillez sur le seul livre, le même livre, toujours, comme une spirale, comme pour déterrer des, comme un archéologue avec un pinceau pour trouver ce qui affleure, ce qui... Oui. Et inventer ce que vous ne trouvez pas.
Oui, esa analogía me gusta como un archéologo.
Oui, ben, j'aime beaucoup cette métaphore comme un archéologue, effectivement.
Es un proyecto, un solo libro.
Parce que c'est un projet d'un seul livre, mais c'est quelque chose que je n'ai pas projeté en tant que tel. Parce que ce livre s'est écrit devant moi. Moi, j'avais commencé en écrivant cette petite nouvelle, mais je ne savais absolument pas que cela allait donner 5, 6 ou 7 livres. Donc, petit à petit, c'est eux qui se sont écrits d'une façon très organique, très naturelle. Et comme c'est un seul et unique narrateur, cet autre Eduardo Alphon, on peut très bien parler d'un livre. Preuve en est que dans d'autres pays, lorsque l'on traduit mes livres, eh bien, ils les mettent dans une seule édition. En Hollande, par exemple, l'édition du boxeur polonais inclut, par exemple, 3 autres livres. Et ça devient un seul livre. Mais petit à petit, je les publie un par un, comme les séries télévisées.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. El mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Música. buscado por donde quiera que voy.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Eduardo Alfon, c'est la guerre civile au Guatemala entre l'armée et la guérilla qui a poussé votre famille à partir. Et une fois que vous étiez aux États-Unis, vous vous êtes engagé dans des études d'ingénieur. Et donc, en principe, vous avez dû apprendre la logique, la clarté, le A plus A égale B, les choses très carrées. Et votre écriture est l'inverse de ça. Est-ce que ça veut dire que, au fond, vous avez votre vraie nature s'est rebellée contre la logique de l'ingénieur et que vous n'êtes à l'aise que dans les courbes, les spirales, les retours?
Non.
Non.
Non, creo, Kathleen. Je ne pense pas, Kathleen.
Je vais te dire pourquoi. Parce que je crois que ma vraie nature, justement, c'est celle d'être ingénieur. Et je me souviens que depuis tout petit, j'étais un peu ingénieur. Je faisais des choses qui vraiment sont très ordonnées, très efficaces. Avant de faire des études d'ingénieur, j'étais déjà ingénieur. Et là où tu as raison, c'est que la littérature, ma façon de faire de la littérature, n'a rien à voir avec l'ingénierie. C'est effectivement absolument l'opposé. Moi, quand je m'assois pour écrire une de ces nouvelles, je n'ai aucune idée de ce qui va en sortir. Je ne sais pas si je vais à gauche, à droite, si ça va être une nouvelle un peu longue, si ça va être un livre tout court. Je commence toujours avec une image qui est très claire devant moi. Et c'est tout. Je dis à l'ingénieur qui est en moi, bon, maintenant, tu te tais pour que l'histoire puisse s'imposer à moi. Et la fin de mes livres m'ont toujours totalement surpris. Je pensais que Monastère parlerait surtout du mariage de ma sœur. Je pensais que l'histoire du petit Salomon se terminerait à New York. Eh bien, pas du tout. Quand je commence à écrire, je n'ai aucune idée de comment ça va finir. Je suis le premier surpris. J'écris assez vite, de façon très spontanée. Mais une fois que le manuscrit est écrit, il y a là, de nouveau, un travail d'ingénierie. Et c'est là que l'ingénieur Alfon revient pour mettre un peu d'ordre quand même. C'est plus une ingénierie du langage, presque que du langage, mais aussi un peu de structure. De présenter tous les petits fragments que représentent ces nouvelles dans un ordre à peu près correct. Enlever tout ce qui est en trop, remettre quelque chose qui manque. Donc c'est là le travail d'ingénierie, mais il vient après et non pas avant le travail de littérature. Le premier moment de mon écriture est totalement irrationnel, d'une incertitude totale, parce que j'ai aucune idée de ce que je vais écrire et donc je suis très angoissée et j'adore écrire comme ça.
Alors vous racontez, Eduardo Alfon, que lorsque vous avez quitté le Guatemala très rapidement avec votre famille, vous aviez 10 ans et que, au fond, en 15 jours, vous parliez couramment anglais. Or, maintenant, vous écrivez en espagnol.
Solo en espagnol.
Oui, uniquement en espagnol.
Alors, qu'est-ce que ça dit du lieu de naissance de l'écriture, de l'imagination? Est-ce que c'est très lié à cette enfance assez particulière que vous nous avez décrite, d'ailleurs, au Guatemala, dans un pays qui, maintenant, ne ressemble plus au Guatemala de votre enfance? Le lac sur lequel vous avez grandi, au côté duquel vous avez grandi, il est pollué, tout a été ravagé par la guerre, puis ensuite par la modernité. Donc, ce Guatemala de l'enfance, c'est un Guatemala qui n'existe plus, qui est recomposé, imaginé, mais c'est toujours le pays de l'écriture.
Si. Si. Lo cierto, lo curioso, Kathleen, es que cuando yo empiezo a escribir,
c'est que quand je commence à écrire,
immédiatement empiezo en español.
Je commence toujours en espagnol, alors que l'anglais est devenu ma première langue, parce que c'est devenu ma première langue. Je pense en anglais, par exemple, mais les premiers mots sortent toujours en espagnol. Quand j'avais 30 ou 32 ans, je venais de revenir au Guatemala, j'ai découvert la littérature au Guatemala. Mais je crois que la véritable raison l'éducation est très liée à l'enfance. Parce que je reviens toujours à ce moment de l'enfance qui s'est déroulé au Guatemala. Le Guatemala qui n'existe plus, qui n'a jamais existé en réalité, parce que ce n'est que les souvenirs que j'en ai. Donc je pense que ce n'est pas une question de langue maternelle, mais de la langue de l'enfance qui était l'espagnol. Le bras de mon grand-père, la relation avec mon frère, la relation avec mon père, tout ceci s'est déroulé en espagnol. Et dans mon cas, la littérature est quelque part un retour à ce paradis perdu, le Guatemala de cette époque-là.
Alors, il y a un livre qui se passe essentiellement au Guatemala. C'est le livre qui s'appelle en français « Deuil » au pluriel. En espagnol, c'est « Duelo », qui a plusieurs sens. Avant d'en parler avec vous, Eduardo Alfon, nous allons écouter une dernière lecture.
Je l'attendais depuis une heure sous les branches d'un araucaria, en fumant. La pluie était à présent un rideau de soie, quasi imperceptible mais constante. Il y avait une pirogue immobile sur l'eau, au loin, sa silhouette noire à peine visible dans la pénombre du crépuscule. Un petit village commençait à scintiller de l'autre côté du lac. Derrière moi, la montagne tout entière semblait se réduire au cri d'une immense chauve-souris. Je fumais une autre cigarette, tâchant de ne pas trop me laisser mouiller par la pluie, ni de trop prêter attention au sang frais sur le sol du patio couvert, quand je vis enfin la vieille dame approcher sur la rive du lac. J'écrasai ma cigarette sur la terre, à mes pieds. Elle marchait lentement, en se balançant d'un côté puis de l'autre, clopin, clopant, comme si elle avait une jambe un peu plus longue que l'autre. Elle allait pieds nus. Sa chevelure lisse et argentée jaillissait d'un tocoyal bleu perle et lui tombait jusqu'aux hanches. Elle était vêtue d'un costume traditionnel, le beau huit piles blanc avec des fleurs brodées vertes et bleu ciel, un châle noir posé sur les épaules. Elle portait sur le dos un grand sac, lourd, sans doute rempli de racines et de plantes. Et tandis que je l'observais en train d'approcher d'un pas lent sur la rive du lac, j'eus l'impression que la vieille dame allait s'amincissant de plus en plus, à tel point qu'au moment où elle arriva en face de moi, elle n'était plus guère qu'un petit squelette. Sa peau tannée avait totalement disparu et j'avais devant moi l'ossature de Doña Ermelinda. Sa mâchoire, ses pommettes, ses hanches et ses côtes, chaque os minuscule de ses pieds de chouette. La vieille dame laissa tomber son sac sur la terre mouillée et, respirant lourdement, haletant presque, elle me lança « Vous cherchez un enfant noyé ». Ces mots m'enveloppèrent la tête de cellophane. J'arrachai promptement ce voile, parvins à reprendre mon souffle et j'étais sur le point de balbutier qu'en effet, qu'elle devait le savoir par la dame de la cantine ou que le vieux au chapeau en feuilles de palme avait dû lui parler de moi. Mais la voix chevrotante de la vieille dame me prit de vitesse. « Hier soir, j'ai rêvé de vous ici même, dit-elle, dans mon araucaria. »
Eduardo Alfon, dans ce livre « Deuil », vous partez à la recherche des traces laissées par un petit mort de 5 ans, Salomon, le frère aîné de votre père. On vous avait raconté qu'il était mort noyé dans ce lac d'Amatitlan. Et en fait, quand vous allez voir cette vieille dame qui fait des potions magiques, au fond, elle vous fait une litanie de petits morts du lac. Aucun n'est le petit Salomon. Ce livre s'appelle « Deuil ». En espagnol, c'est « Duelo », donc c'est le deuil. Mais c'est aussi la douleur.
Oui, c'est la douleur, c'est le dolor.
Effectivement, c'est la douleur.
El luto,
c'est le deuil.
Y es el combate.
Et c'est aussi le combat, le duel.
Le duel.
Es la stress.
Non? En fait, ça veut dire les trois choses. Et les trois sont extrêmement importants dans le livre. Il y a différentes sortes de douleurs. Il y a différentes façons de faire le deuil d'un enfant mort, d'un frère mort, d'un pays ou du lac, ce lac qui est en train de mourir.
El combate.
Et le combat.
Yo creo que el libro está bien sobre esta relación entre dos hermanos.
Que le livre parle aussi de cette relation entre hermano, deux frères, mon père, son frère, mon grand-père et son frère, et puis nous.
Muy complejo el título en español.
C'est très complexe ce titre en
français,
c'est très très difficile.
Il a fallu choisir. Alors, dans votre écriture, il y a ce que je disais au début de cette émission, Eduardo Alfon, il y a des choses très très qui ressemblent à des oxymores, c'est-à-dire que c'est à la fois on est percée de douleur, devant les deuils, devant les trajets dramatiques de certains membres de votre famille, devant cette peine, ce chagrin. Et en même temps, il y a des choses extrêmement drôles, notamment dans le livre Signor Hoffmann, quand vous partez, c'est une situation terrible, et on vous appelle tout le temps Monsieur Hoffmann, et en fait, vous faites de ces péripéties des histoires à la Woody Allen, quoi. C'est un regard, c'est le regard ironique qui vous permet justement de ne pas rendre cette douleur trop pesante.
Si. Pero es un humor.
Vous avez raison. Mais c'est de l'humour au moment le plus solennel. C'est-à-dire recourir à l'humour ou à l'érotisme. C'est un peu la même chose. Parce que ce sont des thèmes, des instants extrêmement durs, poignants, complexes. La mort d'un enfant, par exemple. Les monastères, par exemple, c'est tout ce qui a trait à Israël, les Juifs, les Arabes et toutes ces guerres. Mais l'humeur n'est jamais loin. Et je crois que l'humour, pour moi, est absolument indispensable. C'est presque comme une valve qui permet de s'échapper pour que les choses ne soient pas si solennelles.
Et est-ce que le fait d'être en résidence à Paris pour écrire, est-ce que ça change l'écriture, l'endroit où on est ?
Si, sin duda.
Oui, tout à fait, absolument. J'ai déjà écrit trois scènes dans Paris. Par exemple, l'histoire que j'écris actuellement, c'est sur l'enlèvement de mon grand-père en 1957 par la guérilla. Mon grand-père libanais, qui a été kidnappé pendant 30 jours, et il a survécu. Et j'essaye de reconstruire toute cette époque.
Mais
mon grand-père libanais avait vécu à Paris. Avant d'aller au Guatemala, il avait vécu ici à Paris. Donc, pour revenir à ta question, c'est une archéologie accidentelle, c'est-à-dire que je commence à fouiller et petit à petit, je trouve des objets, des choses. Et petit à petit, Paris est entré dans mon nouveau livre.
Eh bien, Eduardo Alphone, on va attendre avec grande, grande impatience la parution donc de ce sixième livre que nous pourrons lire en français. Je rappelle que les cinq précédents, Monastère, Signor Hoffmann, Deuil, le boxeur polonais et le dernier, Alphone Boy, sont tous disponibles à la table ronde. Ils sont traduits par David Faucambert, qui traduit quand même cantina par cantine, ce qui m'a fait un peu lever le sourcil, parce que c'est pas une cantine, c'est un petit restaurant, la cantina.
Oui, oui.
On aurait pu laisser cantina, ça
oui,
aurait été aussi bien.
Oui.
C'est une faute que Claudine Rimatei n'aurait pas faite.
Ça, c'est pas sûr.
Merci à elle, en tout cas, de nous avoir permis de nous parler ce soir. Merci à vous, Eduardo Alphone. Bon séjour à Paris, surtout.
Merci.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.